évangéliser Paris, cette Babylone. Cette ville, c'est Babylone. Et Sion, c'est ma ville natale, avec ses autels debout et ses croyances respectées. C'est ce qu'écrit en décembre 1831 le Lyonnais Frédéric Ozanam, venu poursuivre ses études dans la capitale. Un demi-siècle plus tard, Jules Vallès, qui est né au Puy et qui est loin de partager les convictions chrétiennes du Lyonnais, s'exclame « Ce n'est que Babylone !» En 1895, dans « Restez chez vous », l'abbé Loutil, talentueux chroniqueur à la Croix, illustre son livre d'une tour Eiffel lointaine. Au premier plan, un jeune homme, une bêche à la main, avec ce commentaire « Paris, la vision maudite !» Alors sommes-nous en présence d'un cliché littéraire, renforcé par une tradition scripturaire ? Babylone, Babel, Sodome, Gomorre, ce qui résumait un poète anglais du XVIIIe siècle, Cooper, « God made the country and man made the town ». Dieu a fait la campagne et l'homme a fait la ville. Remettant en cause les schémas linéaires, je m'attacherai à décrire les grandes phases d'une évangélisation qui concerne un monde populaire fourni, Paris est une grande ville, et une élite sociale et intellectuelle qui anticipe souvent et qui influence la société entière en France et bien au-delà. Paris, Babylone de l'Europe, j'ai trouvé l'expression. Cela avec ses flux et ses reflux, Corsi et Ricorsi, disait Vico. Premier point, les agents de l'évangélisation. Spontanément, nous pensons à la paroisse, cellule de base de la chrétienté dans l'Occident européen, et apparue tôt en Gaule. Mais la paroisse idéale, c'est la communauté de 1500 âmes dont le pasteur connaît toutes ses brebis. Dans ce cadre stable, la religion est vécue comme une observance collective. Chacun fait comme tout le monde, même si des noyaux fervents se retrouvent dans des confréries. En ville, très tôt, ce maillage paroissial a été perturbé et en partie doublé par les chapelles des ordres religieux. Ainsi, franciscains et dominicains, d'abord, comment ne pas penser ici à Thomas d'Aquin, jésuites et capucins, ensuite, ont été des agents très actifs d'une évangélisation en ville par milieu ou d'une évangélisation extraordinaire par les prédications et les missions. J'ai parlé de maillage perturbé. Savez-vous qu'à la fin du XVIIIe siècle, la paroisse Sainte-Opportune ne rassemble pas 40 familles, alors que Saint-Eustache compte 75 000 âmes et Saint-Sulpice 90 000, c'est-à-dire plus que certains diocèses. Au XIXe siècle, après la Révolution, la reconstruction concordataire se fait au détriment des villes. Ainsi, des paroisses parisiennes dépassent les 50 000, voire 100 000 âmes, et entre 1877 et 1906, une seule paroisse est créée à Paris, alors qu'on érige dans les diocèses riches en prêtres des paroisses pour 250, voire 150 âmes. Par ailleurs, le Concordat ignore les congrégations religieuses. Le pouvoir est méfiant vis-à-vis des ordres masculins. Et durant un demi-siècle, il y aura peu de religieux. Ces religieux, fer de lance des campagnes d'évangélisation, par le haut, jésuites, ou populaires, franciscains, capucins. Il en résulte un double frein à l'évangélisation en profondeur, frein plus sensible à Paris qu'ailleurs. Toutefois, l'évangélisation passe aussi par l'initiation chrétienne de l'enfance, et de ce point de vue, avec la multiplication des écoles, des frères des écoles chrétiennes, Paris n'est pas si mal placé. Mais l'enfant, le garçon surtout, persévérera-t-il ? Second point, et je vais revenir en arrière. Qu'en a-t-il été au XVIIe et XVIIIe siècle ? Paris s'est situé, on le sait, en première ligne lors du grand siècle des âmes, le XVIIe. Des noms, les précurseurs, les huit premiers jésuites à Montmartre en 1534.